Avant 2008, les marchés financiers ressemblaient à un peu un immense casino sans aucune caméra de surveillance.
Ouais, tout le monde pariait dans l'ombre sans vraies règles.
Et aujourd'hui, dans notre analyse détaillée, on explore ce qui a forcé la direction à allumer toutes les lumières en plein milieu de la partie.
La fameuse directive européenne MiFID 2.
Voilà, entrée en vigueur en janvier 2018. L'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce texte, qui est super technique en apparence, tente de recadrer la relation entre la finance et les clients.
Et surtout, comment il essaye de restaurer la confiance après la crise de 2008.
C'est ça. Bon, décortiquons tout ça. Allumer les lumières, c'était vital après la crise des subprimes, non?
Ah bah, complètement. Mais l'opacité, c'était pas le seul problème à l'époque.
Il y avait quoi d'autre?
Le vrai danger, c'était la prolifération de produits financiers hyper complexes que personne comprenait vraiment, en fait.
Avec des conflits d'intérêts massifs par-dessus le marché.
Exactement. Mais si l'on replace cela dans un contexte plus large, la loi gère pas juste le passé. Entre 2008 et 2018, les marchés ont muté. On a vu l'explosion du trading algorithmique.
Où des ordinateurs achètent et vendent dans quelques microsecondes.
C'est ça. Couplé à la multiplication des plateformes d'échange alternatives.
Attends, donc la loi essaie de rattraper les erreurs humaines d'hier, mais elle doit aussi gérer la vitesse fulgurante des robots d'aujourd'hui?
C'est le défi, ouais.
Mais imposer la transparence à des machines qui tradent à la milliseconde, ça paraît physiquement impossible. Comment on surveille ça concrètement?
Eh bien, c'est pour ça que le texte repose sur des mécanismes très précis, qui sont divisés en quatre grands piliers. Le premier, ça force une transparence totale.
D'accord, donc fini les transactions de gré à gré en privé, hein.
Voilà. Maintenant, les acteurs doivent publier les volumes et les prix avant et après l'échange. Tout est au radaté et tracé.
C'est du flicage en règle, quoi.
Un peu, oui. Ensuite, le deuxième pilier, c'est un encadrement structurel très strict pour éviter ce qu'on appelle les crash éclairs.
Ah oui, c'est quand les machines paniquent et vendent...
des millions d'actions d'un coup.
Faisant plonger le marché avant même qu'un humain ait le temps de cligner des yeux.
C'est exactement l'idée. Du coup, MiFID 2 oblige les plateformes à imposer des coupes-circuits.
Genre des mécanismes qui mettent le marché en pause automatiquement si les prix chutent trop vite?
Tout à fait. Ça, c'est pour dompter l'aspect technologique, la machine. Mais les deux autres piliers touchent directement l'humain.
D'accord.
Il y a la protection des investisseurs qui impose un profilage systématique des risques et surtout une distinction très nette entre le conseil financier indépendant et non indépendant.
Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si je comprends bien, avant ça, c'était un peu comme aller chez le médecin et se rendre compte qu'il prescrit un médicament non pas pour la santé du patient.
Mais parce qu'il touche une grosse commission d'un labo en cachette.
C'est fou quand on y pense.
La comparaison est hyper pertinente, tu sais. Le conseil indépendant sous MiFID 2, ça signifie l'interdiction totale de percevoir ses commissions de tiers, ce qu'on appelle les rétrocessions.
D'accord. Donc si un conseiller se déclare indépendant, il doit être payé uniquement par son client.
C'est ça. Le mécanisme le force à prouver que le produit recommandé est objectivement le meilleur pour l'investisseur, et pas juste le plus lucratif pour lui.
Sur le papier, c'est la protection ultime. Mais en pratique, quand on veut juste, je sais pas, ouvrir une assurance vie ou un compte épargne basique aujourd'hui, on se retrouve à devoir remplir un questionnaire de 20 pages, non?
Sur tes connaissances financières, ta tolérance au risque, oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette volonté absolue de protéger a créé un effet pervers.
Ah, lequel?
Le volume d'informations obligatoires que les particuliers doivent lire et signer est tellement énorme que ça nuit souvent à la lisibilité de l'offre.
Trop d'infos tue l'info.
Exactement. Et du côté des institutions, les coûts technologiques pour stocker ces données, horodater, prouver la conformité, c'est colossal. Beaucoup disent que cette lourdeur pèse sur la compétitivité européenne.
Face aux marchés américains ou asiatiques, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Est-ce qu'à force de vouloir tout éclairer, on n'a pas mis des projecteurs tellement puissants qu'on finit par aveugler l'investisseur sous une montagne de paperasse?
C'est le paradoxe de la surinformation. Mais malgré ces lourdeurs évidentes, MiFID 2 reste un cadre indispensable aujourd'hui.
Un équilibre délicat, en somme.
Oui, entre permettre l'innovation technologique, maintenir la fluidité et assurer un filet de sécurité pour rétablir une confiance qui, franchement, avait totalement disparu.
Le casino a ses caméras et ses coupes-circuits, c'est déjà ça. Mais cela laisse une dernière réflexion en suspens pour ceux qui nous écoutent.
Laquelle ?
Avec l'accélération de l'intelligence artificielle générative, on voit déjà des algorithmes capables de concevoir eux-mêmes de nouveaux produits financiers.
C'est vrai que ça va très vite, hein.
Du coup, est-ce qu'il faudra bientôt une MiFID 3, une nouvelle loi pour réguler des écosystèmes qu'aucun cerveau humain ne sera plus capable de déchiffrer ?
C'est une excellente question.
Les caméras actuelles seront-elles suffisantes pour filmer ce que les machines inventeront demain? Une réflexion à garder en tête